Vous me voyez devant de temps en temps comme ça, à enseigner ici, à enseigner à la jeune église, ou à parler de Dieu à des ados pendant des camps pendant l'été. Et vous allez dire, normal pour un fils de pasteur qui a été élevé dans l'église, c'est un bon garçon. Mais sachez qu'ado, j'avais une grande terreur. C'était qu'on apprenne que j'étais chrétien. Une fois en quatrième, au collège, il y avait eu un bug du système informatique et les professeurs devaient redemander aux élèves la profession des parents. Et Madame Roger, la professeure d'allemand, a décidé de le faire à l'oral. Elle appelait les gens par ordre alphabétique et leur demandait de dire tout haut la profession des parents. En m'appelant short, j'étais tout à la fin et j'avais le temps de gamberger. Dire que mon père est pasteur, passer pour différent, devoir expliquer ce que c'est, la différence catholique, protestant, voire même être persécuté, comme j'avais lu dans certains textes. Joël, quelle est la profession de ton père ? Responsable du personnel, madame. Madame Roger, qui avait déjà eu ma sœur au collège, « Tu en es sûr, Joël ? Ça a changé ?»« Oui, oui, madame. » Autant vous dire que pendant longtemps, je me suis identifié à l'apôtre Pierre qui a renié Jésus 3 fois. Puis j'ai grandi, et j'ai commencé à comprendre Jésus. J'ai fait des études de droit à la fac de Créteil, et au bout de 4 ans, certaines matières ne me motivaient pas trop. Et plutôt que d'aller en cours en amphi, je préférais sécher, prendre le TVM et me rendre au tribunal correctionnel de Créteil pour assister à des procès. Si vous ne l'avez jamais fait, ça vaut vraiment le coup. On y découvre toute la misère humaine. Les bagarres sur les parkings de boîtes de nuit, les hommes qui ne payent pas leur pension, les chauffards qui causent exprès des accidents, etc. etc. Ça défile. Un monde sans Jésus. Un monde qui a vraiment besoin d'entendre parler de Jésus. Et au tribunal, le juge, après avoir rappelé les faits, demande aux témoins des deux parties de venir s'exprimer. Et il y a 2 types de témoins. Les témoins de personnalité, qui viennent dire qui est l'accusé, sa personnalité. Ce n'est pas un méchant, monsieur le juge. Et les témoins factuels, qui ont vu et qui racontent leur version de ce qui s'est passé. Et le témoignage chrétien dont le monde a besoin, c'est aussi ces 2 choses. C'est dire qui est vraiment notre Dieu et ce qu'il a fait dans notre vie. On peut avoir envie, mais si vous êtes aussi lâche que moi, ou si vous êtes débutant, maladroit, on a besoin de se tourner vers Jésus pour recevoir ses conseils. Et je voudrais commencer par un verset étonnant, dur de Jésus, que l'on s'empresse d'oublier. Alors, je ne sais pas si le PowerPoint pourra lancer, sinon je vais... Ouais. Parfait. Ne donnez pas aux chiens ce qui est à Dieu. Ils peuvent se retourner contre vous pour vous déchirer. Ne jetez pas vos perles précieuses devant les cochons. Ils peuvent les écraser en marchant dessus. Étonnant, d'un Jésus plein d'amour et de grâce. Ne donnez pas aux chiens ce qui est à Dieu. Ne jetez pas vos perles précieuses devant les cochons. L'évangile, le salut par le sacrifice de Jésus, la repentance devant la croix, sont des choses saintes, très précieuses. Un plan secret et mystérieux, répète souvent l'apôtre Paul. Vous qui vivez cette relation avec Jésus, vous en connaissez la valeur. Ce cadeau, Dieu le tient à la disposition de ceux qui le cherchent. Mais d'une part, nous rappelle ce verset, d'une part, on n'en parle pas à la légère, comme disait Manu la semaine dernière, comme si c'était juste un petit plus dans une vie. Et d'autre part, Une relation d'amour, elle ne s'obtient pas par la force. Dieu ne s'impose pas dans ta vie, ni dans celle des autres. Vous savez, les génies dans les contes, ils disent toujours qu'ils peuvent réaliser 3 vœux, tout ce que tu veux, sauf celui de faire tomber amoureux une personne. Ça, personne ne le peut. En matière de témoignage, c'est la même chose. Cela se fait par envie, pas par devoir. On ne force pas le témoignage, sinon c'est contre-productif. Il faut que la personne en face le veuille, le demande. Enfin, si, il existe bien quand même un commandement de Dieu concernant le témoignage. Raconter qui est Dieu et ce qu'il a fait, c'est envers les enfants, la génération suivante. Et on va afficher le passage suivant. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Les commandements que je donne aujourd'hui resteront dans ton cœur, tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. On connaît souvent très bien la première partie du verset, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, ton âme, etc. Et on oublie souvent la suite, tu les enseigneras à tes enfants. S'il existe bien un commandement de Dieu concernant le témoignage, c'est la génération suivante. Les enfants sont exposés à toutes sortes d'influences, ils ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. Et en tant que responsable de la jeune Église, je vous dis ceci, et ça me fait mal, l'enseignement du dimanche matin ne sera jamais suffisant pour vos enfants. Ce n'est pas suffisant, l'enseignement du dimanche matin. Et ne pensez pas qu'en venant le dimanche matin, en déposant les enfants, l'enseignement est suffisant et ils le reçoivent. Nos enfants, vos enfants ont besoin d'entendre simplement de votre bouche les paroles du Seigneur et pourquoi vous êtes son disciple. Pendant longtemps, moi, je n'ai rien fait avec mes enfants. Parce que je suis quelqu'un de très pudique, par paresse. Jusqu'au jour, où il n'y a pas si longtemps, j'ai décidé que, allez, il va falloir que je me prenne en main, que je leur lirai la Bible un peu tous les soirs, 15 minutes avant de se coucher, en commençant par la vie de Jésus. Et pas un livre pour enfants, hein, la Bible, la vraie Bible, dans un langage accessible. Et je suis vraiment étonné de les voir maintenant demander de ne pas oublier de faire la lecture. Et des opportunités que ça donne de glisser un mot de temps en temps sur ma propre expérience. Et si quelqu'un de timide et lâche comme moi y arrive, je vous encourage vraiment dans ce sens si vous ne le faites pas. Et si vous n'avez pas d'enfants, ou plus d'enfants, parce qu'ils ont bien grandi, il y en a plein ici, avec qui vous pouvez lier connaissance, encourager, témoigner de Jésus. Et j'en profite, je radote, mais je vous rappelle qu'une fois par mois, un adulte vient raconter une anecdote de vie avec Jésus aux enfants. Ça se fera maintenant lors du culte pour enfants. Et si vous pensez à quelque chose, n'hésitez pas à venir me voir ou à parler à Fanny à ce sujet. On sera content de vous intégrer dans le programme pour garder le lien avec les enfants. Envers nos enfants, un commandement à ne pas négliger. Et envers les autres, comment je partage ce que j'ai de plus précieux? En travaillant sur la question, est-ce que j'en avais besoin? Trois textes de la parole me semblent essentiels et on va afficher les deux premiers. Il n'y a pas de souci. N'ayez pas peur des gens et ne vous laissez pas troubler. Mais reconnaissez dans vos cœurs que le Christ seul est saint, il est votre Seigneur. Quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours prêt à donner des explications, mais faites-le avec douceur et respect, avec une conscience pure. Ça, c'était l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul maintenant. Continuez à prier fidèlement, ainsi vous serez toujours prêt à remercier Dieu. Priez aussi pour nous, que Dieu nous donne l'occasion d'annoncer sa parole. Avec ceux qui ne sont pas chrétiens, conduisez-vous avec sagesse, profitez du temps que Dieu vous laisse. Que vos paroles soient toujours agréables, intéressantes, répondez à chacun comme il faut. N'ayez pas peur des gens. Comment vous, vous voyez les gens à l'extérieur? Est-ce que vous les voyez comme des ennemis? Des gens avec qui vous êtes en compétition? Un jour, mon meilleur copain Guillaume, il m'a repris à ce sujet, il m'a dit « Tu sais Joël, je ne sais pas pourquoi je vais râler ou parler mal de quelqu'un sans doute. Tu sais Joël, la plupart des gens ne sont pas méchants. Oui, ils sont juste perdus. Un sourire, un petit mot gentil, ça suffit souvent à démarrer une discussion. Si tu veux témoigner à une personne, il faut que tu la considères comme une personne à l'image de Dieu, digne de son amour. Sinon, ça ne vaut pas le coup de témoigner. Et il faut pouvoir s'intéresser à la vie de cette personne. Répondez à chacun comme il faut, nous dit le texte. Adaptez-vous à chaque personne. Il faut savoir s'adapter. Nick Pollard, un grand évangéliste, alors je vous conseille son livre, il s'appelle « L'évangélisation légèrement moins difficile ». Et je l'offre à la première personne qui viendra me la demander tout à l'heure. Et je sais que vous allez tous vous ruer sur moi après. Ok. Donc attention à mon intégrité physique quand même. C'est bien un message où on offre des cadeaux quand même. C'est pas... Donc Nick Pollard, disais-je, raconte que la majeure partie de son temps, c'est un grand évangéliste, il le passe essentiellement à poser des questions aux gens sur leur vie, à s'intéresser sincèrement à eux. La suite. Soyez prêts à donner des explications quand on vous en demande pour Pierre. Profitez du temps que Dieu vous laisse, des occasions, dit Paul, de la même manière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne force pas son témoignage. Je ne cache pas qui je suis, bien sûr, mais je travaille d'abord à ce que ma manière de vivre suscite des questions. Billy Graham, un autre grand évangéliste qui prêchait à des millions de personnes, était toujours très respectueux de ses interlocuteurs. À une personne, au cours d'un repas, qui lui demandait s'il avait toujours été chrétien, il répondait « Non, mais à 18 ans, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire qui a tout changé. » Et il s'arrêtait là. Il laissait à la personne en face la possibilité soit de demander, ce qu'on a tous envie de demander, mais quelle chose extraordinaire ! Ou tout simplement de demander le sel, si elle n'était pas intéressée. Avec douceur et respect, dit Pierre, la personne en face, on a dit, n'est pas un adversaire. Quand on témoigne, on ne cherche pas à avoir raison, à gagner un argument scientifique sur la façon dont la Terre a été créée. Vous n'y étiez pas. Sur l'origine du mal, etc., etc. Et même si vous gagnez votre argument et vous écrasez l'autre par votre science, vous aurez perdu un ami. Vous l'aurez humilié. On ne témoigne pas pour avoir raison. On témoigne de Jésus et de son œuvre en nous et de ce qu'il souhaite apporter à notre interlocuteur. Ensuite, ce témoignage se prépare, nous montrent ces passages. Pas comme la récitation d'un discours tout prêt, qu'on n'attend qu'une occasion pour balancer. Une fois, j'avais préparé comme ça, et à la fac, une fille, elle m'a écouté, puis elle m'a dit « j'ai rien compris ». Ces passages nous montrent que cette préparation passe par la prière. Et cette prière, elle est double. Comme nous ne cherchons pas à nous imposer, nous prions pour des occasions de témoignage auprès des gens qui nous sont chers. Et nous prions pour ces personnes. Nous prions pour ces personnes. Et deuxièmement, nous passons du temps, nous montre ce passage, en remerciement dans la louange. On se remémore les choses qui ont changé, qui vont bien dans notre vie grâce à Dieu, pour pouvoir les raconter aux autres par la suite. Et en tant qu'éditeur, ce qui me fait le plus plaisir, j'arrive, et il faut pouvoir les mettre en mots agréables et intéressants. Une autre traduction, c'est avec des mots pleins de saveur, si on prend le texte littéral, avec des mots pleins de saveur. Sous forme de texte, chansons, rap, dessins, tableaux, comme vous voulez, vidéos. C'est cette richesse de vie, de relation avec Dieu, dont se nourrira votre témoignage. La Bible utilise l'image d'une coupe qui déborde. Si nous avons une vie riche de louanges avec Dieu, dans la reconnaissance, nous sommes comme une coupe qui déborde naturellement envers les gens. La Bible utilise aussi l'image des petites miettes qui tombent à terre d'une table abondante. Le témoignage vient d'une vie riche de louanges et de reconnaissance. Et si nous sommes secs à ce niveau-là, notre témoignage n'a pas de valeur. Dernier texte essentiel concernant le témoignage se trouve en 2 Timothée chapitre 1. C'est un des textes les plus magnifiques dans la Bible sur la transmission. Timothée, mon fils très aimé, c'est à toi que j'écris, dit l'apôtre Paul. Que Dieu le Père et le Christ Jésus notre Seigneur te bénissent, qu'ils te montrent leur amour et te donnent la paix. Nuit et jour, quand je prie, je dis toujours ton nom. Et je remercie Dieu que je sers avec une conscience pure, comme mes ancêtres l'ont fait. En me rappelant tes larmes, j'ai envie de te voir pour être rempli de joie. Je me souviens de la foi sincère qui est en toi. C'était déjà celle de ta grand-mère Loïs et de ta mère Eunice, et cette foi est en toi aussi, j'en suis sûr. C'est pourquoi je te rappelle ceci. Garde bien vivant le don de Dieu que tu as reçu quand j'ai posé les mains sur ta tête. En effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet Esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur et n'aie pas honte de moi qui suis en prison pour lui, mais souffre avec moi pour la bonne nouvelle avec la puissance de Dieu. Et dans ce texte, on y retrouve tout ce qu'on a vu déjà. La prière pour les personnes et les occasions de se voir et de parler, la transmission d'une personne plus âgée à une personne plus jeune. Et Paul rajoute un élément ici qu'on n'avait pas dans les textes, c'est qu'il rappelle le témoignage des ancêtres et il met devant Timothée ce que vivaient sa mère et sa grand-mère et ses ancêtres à lui. Et quand nous témoignons, nous parlons non seulement de ce que Dieu a fait dans nos vies, mais aussi de ce qu'il a fait dans la vie de nos prédécesseurs, de nos modèles. Et on garde en tête la mémoire spirituelle de nos ancêtres. Et on a le droit de faire des choix dans notre histoire familiale. On a le droit de faire des choix ou dans notre histoire d'église. Vous remarquerez qu'ici, Paul, il ne parle pas du tout du père de Timothée. Qu'il était, qu'est-ce qu'il faisait, c'est pas grave. Paul lui dit, souviens-toi de la foi de ta mère, et je dis la grand-mère, c'est bien la grand-mère? D'accord, la grand-mère Loïs et de ta mère Eunice. Okay. On a le droit de faire des choix. Et aux enfants, on ne coupe pas de raconter une histoire familiale chrétienne, si elle existe. Ou sinon, on se sert de modèles qui nous ont marqués dans l'Église. Enfin, Paul vient apporter quelques précisions sur l'esprit qui suscite le témoignage. C'est parce que nous serons forts, remplis d'amour et maîtres de nous que nous susciterons des témoignages. C'est parce que nous serons forts, remplis d'amour et maîtres de nous que nous susciterons des témoignages. Si nous sommes peu assurés, si nous n'aimons pas, si nous sommes des girouettes inconstantes, notre témoignage n'aura pas de valeur aux yeux des gens. Ce qui va susciter des questions, c'est notre force de conviction, notre amour pour les gens et notre maîtrise de soi. Tout ce que nous avons vu qu'il manque bien souvent dans ce monde. Et il nous faut donc travailler sur ces trois points avec l'Esprit de Dieu en nous. Et la Bible utilise l'image d'un phare dans la nuit, de la lumière dans l'obscurité, d'être un repère pour les gens dans ces temps, dans notre façon de mener notre vie de couple, notre vie de famille, au travail, etc. J'aimerais donc qu'à la fin de ce message, vous soyez déculpabilisés. Le témoignage ne se force pas. C'est une question d'envie. Soyons prêts, tout simplement, à répondre avec amour aux questions qu'on nous posera et à nous préparer à cela dans la prière. Amen.